Livre des Actes des Apôtres. Oh, c'est vrai que tous les livres de la Bible sont beaux, sont passionnants, hein, mais celui des Actes, c'est aussi très intéressant. Alors, nous trouvons dans le livre des Actes, au chapitre 9. Oh, il commence ce chapitre par la conversion de Saul de Tarse. Mais il finit par la naissance d'Église. 9:31, on va dire jusqu'à la fin du chapitre, jusqu'à verset 43. La lecture de la parole est quelque chose d'important, hein. Il faut y prendre le temps. Est-ce qu'on sait prendre le temps aujourd'hui? Non, hein. On est trop pressé comme les citrons. Mais prenons le temps. Moi, je suis à la retraite. Bien sûr, c'est mon service depuis tout jeune. Mais enfin, prenons le temps. Ne disons pas 5 minutes. Non, c'est rien du tout, ça. Des fois, on perd du temps. Quand on prend du temps pour Dieu, on en gagne. Amen. Alors, nous disons. Acte 9, 31. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée, la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Comme Pierre visitait tous les saints, il descendit aussi vers ceux qui demeuraient à Lydde. Il y trouva un homme nommé Aîné, couché sur un lit depuis 8 ans et paralytique. Pierre lui dit, « Aîné, Jésus-Christ te guérit, lève-toi et arrange ton lit. » Et aussitôt il se leva. Tous les habitants de Lydde et du Saron le virent et se convertirent au Seigneur. Il y avait à Joppé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lydde est près de Joppé, les disciples, ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier, de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva, partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant, lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis, se tournant vers le corps, il dit, « Tabitha, lève-toi !» Elle ouvrit les yeux et vit Pierre. Ayant vu Pierre, elle se leva, elle s'assit. Il lui donna la main, la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Cela fut connu de tout Joppé et beaucoup crurent au Seigneur. Pierre demeura quelque temps à Joppé chez un corroyeur nommé Simon. Amen. C'est un texte bien connu, mais d'une richesse. Gloire à Dieu. Vous savez, souvent, on lit la Bible, mais on la lit en pensant à autre chose. Mais quand on la lit vraiment, lire 4 versets, 5 versets, prenant le temps de réfléchir, priant, regardant peut-être une autre version. Alors, je ne vais pas vous redemander d'avoir les dictionnaires hébreux, grecs, si vous les avez, tant mieux pour vous. Vous ouvrez d'autres richesses. Hein. Mais le Saint-Esprit est bien fait. Il a mis aussi des richesses à la disposition des Français. Amen. De ceux qui aiment. Alors, dans ce texte, il est question de l'Église. L'Église. Vous remarquez là, c'est la première Église. Elle est en paix dans toute la Judée, la Galilée, la Samarie. C'est important, la paix. Vous avez remarqué là, l'Église primitive, après d'être née à Jérusalem, hein, elle est en paix dans tout un pays. La Judée, Jérusalem. La Samarie, qu'est-ce que c'est que les Samaritains? C'est des gens qui... C'est vrai, hein, on les regardait un peu avec mépris. Mais béni soit Dieu, quand Philippe a été envoyé pour leur annoncer la bonne nouvelle. Hein, le réveil de Samarie, et puis la Galilée, trois régions. Eh bien, ces trois régions, elles étaient, il y avait la paix entre eux. Vous savez que c'est pas naturel, ça, la paix de Dieu. Regardez quelquefois aujourd'hui comme il y a de guerre. Oh, je ne parle pas de la guerre ukraino-russo-américaine, etc. Non, je parle de la guerre dans les foyers. Ça n'existe pas. Ça n'existe que dans les foyers païens. Je ne suis pas sûr. La paix. La paix, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et là, ils étaient en paix. Vous savez, quelquefois, eh bien, en regardant ici, en regardant là, en regardant ailleurs, on se dit, ah, si on pouvait être comme eux, si on pouvait être dans telle région, dans tel endroit, si je pouvais habiter à, j'irais ici, j'irais là. Mais dans l'Église primitive, il n'y a pas de guéguerre, il y a une union. Parce qu'une guéguerre, c'est le début d'une guerre. Hein ? Que Dieu nous aide à savoir garder la paix de Dieu. Et on s'aperçoit que le résultat de la paix, vous savez, en ce moment, on est un peu en guerre avec ce fameux virus qui est là. Et ça revient, et il s'en va, et il revient, ça s'en va, et ça revient. Hein ? Non, c'est vrai. On ne sait pas trop ce qu'il veut. Et nous ? Ben, on ne sait pas non plus. On entend blanc, on entend noir, et rataplan, et les ministres se réunissent. Alors il y a les conseils de ci, les conseils de là. C'est difficile. Alors on nous dit, mais on risque d'avoir le pays bloqué. Ce serait quand même un problème. Hein ? Mais là, ils sont ensemble, gloire à Dieu. Et j'aime ce texte est important parce qu'il y a question de la croissance de l'Église. On en parle beaucoup aujourd'hui. L'Église doit grandir. Alors, elle grandit dans quel sens ? Remarquez-le. Elle s'édifie et elle marche. Oui. C'est-à-dire, s'édifier, c'est grandir, croître dans la sainteté, dans les progrès spirituels. C'est important que l'Église s'édifie, mais aussi qu'elle marche dans avec le Seigneur, c'est-à-dire qu'en marchant, c'est obéissance, et qu'elle gagne en même temps des âmes. Les deux sont possibles. On a souvent, n'est-ce pas, un choix. Certains disent, mais il faut se préparer, Jésus revient. Alors là, je dis à 100%, oui, mais il y a aussi le monde à sauver. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Ben, les deux. Amen. Les deux ne se contredisent pas. Hein ? Vous savez, la Pentecôte, je vous l'ai déjà dit, je crois, qui a été un mouvement d'évangélisation, puisqu'aujourd'hui, eh bien, des dizaines et des dizaines de millions de chrétiens, j'ai mis une... Parce que Pentecôte, ça a démarré comme ça, mais ça a démarré par un réveil de sainteté. Gloire à Dieu. Des gens qui ont voulu sortir de la tradition, de la routine. Parce que quand on a la tradition qui nous tient, eh bien, on est paralysé dans la sainteté et dans l'évangélisation aussi. Alors que Dieu nous aide à marcher. Et l'Église, là, elle s'accroissait, vous avez remarqué ? Dans la crainte du Seigneur. Est-ce qu'aujourd'hui, nous réalisons ce que c'est que la crainte du Seigneur ? Que de fois, peut-être que le pasteur, ou peut-être que le Saint-Esprit lui-même vient nous parler, nous dire attention, attention. Est-ce que d'un revers de manche, nous disons, oh, c'est rien ça, les autres le font. On est au 21e, bon, vous êtes du 20e, il y a longtemps. Mais que Dieu nous aide à avoir sa crainte. La crainte, ce n'est pas la peur, vous le savez. Je ne vous dis rien d'extraordinaire, aujourd'hui, dans le domaine de fête, il ne faut pas trop en demander. Hein ? Mais c'est important. Marchant dans la crainte du Seigneur, le respect du Seigneur. Dieu sait tout. On ne s'arrange pas avec lui comme avec un copain. Il faut marcher dans la lumière. Alléluia. dans la lumière, dans la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous savez, dans nos églises aujourd'hui, la faiblesse, c'est peut-être le sentimentalisme. N'est-ce pas ? Le sentimentalisme. Il ne faut pas être trop dur. Il ne faut pas. Non, il ne faut pas être trop dur. Mais la vérité dans l'amour. Hein ? Je crois qu'aujourd'hui, la vérité, on la méprise un peu, on oublie. Quand ça nous arrange, quand ça ne nous dérange pas, ça va. Mais quand ça nous dérange, alors on risque de... Et ça, c'est dangereux, que Dieu nous aide. Donc, remarquez-le, c'est intéressant. Il est dit que l'Église s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. J'aimerais maintenant parler de quelque chose de très important. L'œuvre du Saint-Esprit. Vous savez, lorsque les assemblées sont nées en France, il n'y avait que peu de gens qui avaient la connaissance de la Bible, de la parole de Dieu. Les gens se convertissaient de façon merveilleuse, des ivrognes, enfin, toutes sortes de conversions, toutes sortes de gens. Mais il manquait d'enseignement dans la parole de Dieu. Nous avons connu un pasteur qui, un jour, disait ceci. Moi, je suis un garçon, c'était un Normand, monsieur Marcel Le Filâtre. Je sais que certains l'ont connu. Et ce frère, je me rappelle, c'était à la colonie de Gap, me racontait qu'il n'avait pas de connaissance de la Bible, mais que les vérités de la Bible, le Saint-Esprit les lui a enseignées. Ça veut dire qu'il le vivait sans savoir. Sans savoir. Et il se posait toujours des questions. Il s'interrogeait. Mais le Saint-Esprit de Dieu qui était en lui le conduisait dans la vérité jusqu'au jour où il a reçu l'enseignement. Alors pour préciser les choses, ça venait souvent de Donald G., d'Harold Orton, qui étaient des enseignants anglais, en sachant que le réveil avait eu lieu en Angleterre des années avant. Et Marcel nous disait... Ce qu'ils disaient, ce qu'ils enseignaient, je l'avais vécu. C'est formidable, ça. Le Saint-Esprit qui a inspiré l'Écriture, vous le savez. Toute Écriture est inspirée de Dieu. Vous croyez ça ? Toute l'Écriture, pas toute Écriture inspirée, toute l'Écriture est inspirée de Dieu. Alléluia. Et ce Saint-Esprit, regardez dans la parole de Dieu, les chrétiens qui ont vécu au début n'avaient pas les épîtres de Paul, ils n'avaient pas l'évangile de Luc, ils n'avaient pas l'épître de Pierre, mais ils vivaient quand même. Hein. Pourquoi ? Parce que l'assistant, le Saint-Esprit, était en eux, et les vérités éternelles, les vérités divines, ils les ont vécues. Exemple, dans ce texte, il est écrit... Alors, quand je parle de la croissance de l'Église, tout le monde doit grandir. Vous savez, quelquefois, on rencontre des personnes, par exemple, je vous cite le cas, notre petit-fils, comment il s'appelle ? Le dernier, Quentin. Ces temps-ci, je trouve qu'il a fait une croissance. Il n'y a rien d'anormal à cet âge-là, 13-14 ans. Hein ? Mais imaginez qu'il grandisse sans prendre un peu de graines au niveau intellectuel ou au niveau de la vie de chaque jour. On dirait, oh, il y a un défaut dans la croissance. Mais je crois que la croissance de la Bible, elle est enseignée. Pourtant, tout cet enseignement que l'apôtre Paul donne aux Éphésiens, vous connaissez le texte, hein ? L'Église qui doit grandir, comme un, etc., etc. Il ne l'avait pas sur papier, mais il l'avait dans leur cœur. Amen. Il l'avait dans leur cœur, dans leur vie. Et exemple ici, l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre est appelé. Et la Bible dit que il a visité tous les saints. Remarquez-le, dans ce texte, lorsqu'il prie pour Aîné, il dit « Aîné, Jésus-Christ te guérit ». Ça veut dire, qu'est-ce que vous voulez dire, pasteur ? Mais je veux dire ceci, c'est qu'il est important de ne pas dédaigner les détails de l'Écriture. Certains disent « on prie le Saint-Esprit ». Non, ce n'est pas le Saint-Esprit qui est mort à la croix, c'est Jésus. Vous savez, pourtant, l'apôtre Pierre, hein, il avait un certain caractère, mais il savait que dans les meurtrissures du Seigneur, nous avons été guéris. Vous allez dire, frère, c'est pareil. Non, ce n'est pas pareil. Il faut faire attention. La parole de Dieu dit, c'est Jésus-Christ qui te guérit. Alors, bien sûr, il y a l'assistance du Saint-Esprit. Mais qu'est-ce qu'il fait, le Saint-Esprit ? Il prend de ce qui est à Jésus et nous le donne. Donc, Pierre dit ici, Jésus-Christ te guérit. Oh, loin de mépriser la personne du Saint-Esprit. Mais Jésus, dans l'évangile de Jean, a donné cet enseignement. Ce serait trop long pour en parler. Il a dit ceci, « Je m'en vais, mais quand je m'en serai allé, je vous enverrai le Saint-Esprit. » Vous savez, les disciples étaient tristes, ils se disaient, « Mais Seigneur, alors, qu'est-ce qu'on va devenir ?» Et quand le Saint-Esprit l'aide, le paraclet, on retrouve exactement ici le même mot, assistance. J'aime ce mot, assistance. Le Saint-Esprit n'est pas quelqu'un qui assiste, comme un spectateur, mais il est l'acteur. Alléluia. Et si je puis dire, dans ce texte, c'est lui qui inspire Pierre pour prier au nom de Jésus. Au nom de Jésus. D'ailleurs, dans son épître, qu'il a écrite des années après. Hein ? Lisez avec moi, si vous voulez, la première épître de Pierre, au chapitre 2 et au verset 23. Il a vécu, il a vu de ses yeux son maître mourir. Et là, il dit ceci, 1 Pierre 2, 23, « Lui qui injuriait ne rendait point d'injure. » Ne maltraitait, ne faisait point de menace, s'en remettait à celui qui juge justement, lui qui a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice, lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Amen. C'est bien de Jésus dont il est question. Et ce que Pierre, a vécu, ce qu'il a communiqué, il le confirme dans ses écrits. Et ça, c'est quelque chose de très important. D'ailleurs, dans le texte que nous avons lu, les questions, Pierre lui dit, « Aîné, d'abord, je voudrais dire ceci. Vous savez, les apôtres, ils ont eu besoin de faire des progrès. Amen. Tout le monde a besoin de faire des progrès. Gloire à Dieu. Même le plus saint. Personne ne peut dire, moi, j'en sais assez, j'en connais assez, j'ai vécu, j'ai donné aux autres. Non, jusqu'au bout. Je ne sais pas si vous trouvez que vous êtes assez saint pour plaire au Seigneur, pour l'enlèvement. Il vient chercher une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Et Pierre a fait des progrès. La preuve, c'est qu'il dit à Aîné, lève-toi et arrange ton lit. Je pense, c'est mon idée, ça, hein. Lève-toi, il savait que Jésus est guéri. Mais arrange ton lit, je pense qu'il y a une parole aussi de l'Esprit de Dieu, là. Dans le terme arrange, arrange. Aîné a fait des progrès. Vous savez, c'était un chrétien aîné, un saint. Un saint qui était malade depuis 8 ans. Qu'est-ce qu'on voit quand on va voir quelqu'un qui est malade longtemps ? Dans un sens, peut-être, on se dit, mais heureusement que je ne suis pas comme lui. Ou peut-être, j'aimerais être comme lui. Parce que aîné veut dire louange. Son nom veut dire louange. Ça vous est arrivé quelquefois de rencontrer des chrétiens malades, depuis longtemps. Et pourtant, ils avaient une paix, un rayonnement. On se disait, si je pouvais être comme eux.
Pas vrai ?
Alors, il ne s'agit pas de chercher les difficultés, de chercher, mais pour dire que cet homme, vous savez, sa maladie l'a mené à dépendre des autres. C'est vrai, ce n'est pas intéressant. Quelquefois, il y a beaucoup de personnes qui dépendent des autres. Alors, je ne parle pas de la dépendance physique ou matérielle, mais je pense de la dépendance spirituelle. On a besoin de grandir aussi, de ne pas rester des enfants, flottants, emportés à tout vent de doctrine. D'ailleurs, c'est le texte d'Éphésiens 4. Vous savez, on le retrouve. La parole de Dieu a une unité extraordinaire. Est né, il est devenu autonome. Gloire à Dieu, pas indépendant. Hein. Les indépendants, c'est des gens qui ne comprennent rien, ils n'écoutent rien, ils ont toujours raison. Ils tournent, virent comme des brebis errantes. Ils mettent le malheur, l'épreuve partout, parce que c'est eux le problème et ils croient que c'est les autres. Mais aîné, il est devenu... Et alors, regardez ce que dit l'Écriture. Tous les habitants de l'Ide et du Saron le virent et se convertirent au Seigneur. Quand c'est le Saint-Esprit qui dirige les choses, quand c'est la parole de Dieu qui conduit tout, le but, c'est le salut des âmes et la gloire de Dieu. Alléluia. Ces gens se sont convertis. Vous avez remarqué à qui ils se sont convertis? Au mouvement de Pentecôte. Non, non, non. À Pierre. Non, non, non. Mais au Seigneur. Et vous savez que dans les livres des Actes des Apôtres, et souvent, le Seigneur, c'est Jésus. Bien sûr, c'est le Seigneur Dieu. Mais ici, il est question du Seigneur Jésus. Alléluia. C'est beau parce que ici, l'Église s'accroissait. L'apôtre fait des progrès. Le saint, puisqu'il visitait tous les saints, donc aîné faisait partie des saints, eh bien aîné, il a fait des progrès. Et l'œuvre de Dieu dans les villes de Lydde et du Saron, on fait des progrès. Vous savez, le progrès, c'est pour tous, dans tous les domaines. Regardez l'apôtre Pierre, on le retrouve. Il est dit qu'il va y avoir un problème dans l'église remarquée, il est question de Dorcas. Dorcas, une femme, je dirais peut-être une diaconesse. C'est intéressant, il est dit qu'elle faisait beaucoup d'œuvres et beaucoup d'aumônes. Alors, un jour, elle est décédée. Vous avez remarqué que certains ont été malheureux. Hein. Quand l'apôtre Pierre est arrivé, d'abord, notez que l'apôtre Pierre n'était pas loin. Mon frère, ma sœur, le secours de Dieu n'est jamais loin. Il n'est pas la prière que va faire pour toi un Américain, un Russe, ou un Coréen, ou un Australien. C'est la prière que tu fais toi. Amen. Il n'était pas loin. La parole de Dieu dit, la parole n'est pas loin, elle est dans ta bouche et dans ton cœur. C'est la parole de la foi que nous prêchons. C'est un texte du Deutéronome, j'aimerais le lire avec vous si vous voulez bien, parce que c'est intéressant. Des fois nous avons des façons de faire qui n'ont rien à voir avec la Bible. On a appris que ça se fait comme ça là-bas, alors on veut le faire. Mais ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est ce que la Bible dit. Alors, on va essayer de trouver, parce que, voilà. Oui, regardez. Deutéronome 4, 7. Notre Dieu est près de nous toutes les fois que nous l'invoquons. Alléluia. Et même la parole est près de toi, dans ta bouche, dans ton cœur. C'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche, je vais un peu vite là, non ? J'en vois qui regardent avec leurs yeux, étonnés. Alors on va prendre 2 secondes, hein, dans Romains, parce que c'est important ça. Hein, voilà, quelquefois on va chercher le secours bien loin, alors qu'il est tout près. Non ? Vous l'avez expérimenté, certains, ça ? Dites-moi, ça me fera plaisir.
ça glorifiera le Seigneur.
Souvent, on voudrait être comme lui, on voudrait comme elle, on connaît quel prédicateur qui a le don de ci, de mi, de là. Le don de tirer de l'argent des fois aussi. Ça aussi. Mais qu'est-ce qui est écrit là ? Romains 10, voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur, qui montera au ciel ? C'est en faire descendre Christ. Vous vous rendez compte ? Ça veut dire que si on cherche ailleurs que près de nous, je veux dire le Seigneur est près de nous, eh bien c'est en faire descendre Christ. Il y avait une fois, ça suffit. Hein ? Il dit, que dit-elle cette parole ? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. C'est la parole de la foi que nous prêchons. C'est la parole de la foi. Frères et sœurs, la foi, c'est important quand même, non ? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. On peut perdre des forces, on peut perdre la morale, la mémoire, on peut perdre de l'argent, on perd beaucoup de choses. Mais que Dieu nous aide à garder la foi. Gardons notre foi, c'est précieux la foi. Mon juste vivra par la foi. La foi, c'est quelque chose au-dessus de tout ce que l'on peut concevoir, que l'on peut imaginer, qu'on peut avoir par la réflexion, quand on réfléchit à ce Dieu si grand qui nous a sauvés. Pensez à nous qui sommes des minus. On se dit, mais ce n'est pas possible. Et si c'est possible, alléluia, il nous aime tant. Alors aimons-le un peu plus aujourd'hui. La parole de la foi. Si tu confesses de ta bouche, voyez le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Oui, le salut n'est pas loin. Il est à côté de nous aujourd'hui. N'est-ce pas, on peut nous faire croire qu'il faut aller ici, qu'il faut aller là. D'ailleurs, les avions sont en grève en ce moment, alors ça tombe bien. Hein ? Mais Dorcas, j'aime cette histoire parce que j'avais dit que je finirais à 11h, encore 5 minutes, ça va aller ? Je ne veux pas vous fatiguer, hein ? Couper l'appétit ? Non. Mais c'est intéressant parce qu'ils ont appelé l'apôtre Pierre. Vous avez remarqué ce qu'il a fait, l'apôtre Pierre ? Il a fait un peu plus ce que fait Jésus. Qu'est-ce qu'il a fait ? Vous savez qu'il était dans Pierre, Jacques et Jean étaient plus près du maître quand ils sont montés sur la montagne de la Transfiguration. Ils y étaient. Quand ils sont allés prier pour la fille de Jaïrus, ils y étaient. Alors, quand non seulement il a parlé comme Jésus, mais il vivait un peu plus. Qu'est-ce qu'il a fait ? Quand il a vu tout ce remue-ménage avec ses veuves qui pleuraient, etc., il a dit, dehors. Vous savez, il y a des fois, on a besoin de faire le vide. Amen ? Oui. De se retrouver dans la présence de Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait ? Oh, il n'a pas eu de révélation extraordinaire. La Bible dit, il s'est mis à genoux et d'un, il a prié. Il est devenu davantage dépendant de Jésus. Amen ? Davantage dépendant. Il ressemble davantage à son maître. Et ça, c'est important. Gloire à Dieu. Et bien sûr, Dorcas, eh bien, elle a reçu la bénédiction de Dieu. Et figurez-vous qu'au travers de cette épreuve, alors qu'ils en pleuraient, les veuves, les saints, pleuraient. Mais vous avez remarqué la suite du texte ? Je passe un peu vite. Hein ? J'aime cette parole, regardez, c'est écrit. Elle ouvrit les yeux. Pierre lui a parlé. Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux. Et ayant vu Pierre, elle s'assit. Pierre lui a donné la main, il l'a fait lever et il la lui présenta au sein. Gloire à Dieu. Quel fut le résultat ? Regardez. Cela fut connu de tout Jopé et beaucoup crurent au Seigneur. Il y a eu l'épreuve, la mort de Dorcas. Les veuves donc, qui dépendaient quelquefois certainement de Dorcas ont dit, mais qu'est-ce qu'on est, on est fichu ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Mon frère, ma sœur, qui n'a pas été peu ou prou, dans sa vie, dans la difficulté. Et souvent, c'est vrai, on cherche partout le secours. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours ? Merci Seigneur pour l'Église. Merci Seigneur pour ceux qui prient pour nous, qui nous entourent ou qui le font pour vous. Mais dans le psaume 120 et quelques, ou 130 et quelques, le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Alléluia. Voilà, j'arrête là. Oh, on aurait pu continuer. Hein ? Vous avez marqué ? Il est écrit que il y avait là dans cette église des saints, des veuves, des gens qui avaient besoin de grandir, de faire des progrès. Nous avons tous besoin. Alors c'est vrai que Pierre est en train de ressembler de plus en plus à Jésus, mais il n'est pas encore Jésus. La preuve, c'est que quand il a été appelé, vite, vite, il est venu. Alors que Jésus, quand il a été appelé pour la mort de Lazare, il a pris le temps. Jésus, c'est la perfection. Nous, on est en train de se perfectionner. Mais la perfection, elle sera là-haut. Alors, oubliant ce qui est en arrière et nous portant vers ce qui est en avant, comme dit Paul, je cours pour tâcher de le saisir, parce que moi-même, vous-même, vous avez été saisis par Jésus-Christ. Amen. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te bénir ce matin, te rendre grâce, parce que ta parole est si riche. Seigneur, et souvent, c'est vrai, nous considérons tes richesses et nous oublions qu'elles sont pour nous. Seigneur, rien de ce que tu nous as écrit n'est pour les autres, pour un autre temps, mais c'est pour aujourd'hui. Nous vivons, c'est vrai, des temps difficiles, des temps incertains, mais Seigneur, tu es là. C'est toi qui es au contrôle, comme l'on dit. C'est toi, Seigneur, qui sait tout, qui a tout en main. Seigneur, merci pour l'Église. Elle est la colonne et l'appui de la vérité. Alors ce matin, nous voulons te louer pour ta parole. Merci pour ces moments. Garde mes frères et sœurs, garde notre Église, Seigneur, en toi, et qu'elle soit vraiment la colonne et l'appui de la vérité. Bénis-la, Seigneur, dans ce grand quartier de la ville de Montpellier. Seigneur, et que par ta grâce, beaucoup se tournent vers toi. Merci pour le travail qui a été fait. Seigneur, et nous croyons qu'en cette année nouvelle, bientôt, Seigneur, beaucoup passeront de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Que Dieu soit béni au nom de Jésus. Amen.